Le 25 mai 1864, jour du vote de la loi Olivier. Cet événement en effet devrait nous parler davantage par les temps qui courent, car cette loi abolit le délit de coalition. Ça veut dire qu'elle ouvre la voie au droit de grève.
Mais attendez, il y a eu des mouvements de grève avant 1864, non?
Oui, mais ils étaient illégaux et ils se terminaient souvent dans le sang. Pensez à la révolte des Canuts, par exemple, les tisseurs de soie lyonnais en 1831. Précisons tout de même que cette loi n'instaure pas encore tout à fait le droit de grève. Elle le dépénalise simplement, ce qui ne l'empêche pas de punir ceux qui, je cite, « à l'aide de violences, voies de fait, manœuvres frauduleuses, tenteraient d'amener ou de maintenir une cessation concertée du travail » dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.
Votre loi, elle reste ambiguë quand même, Franck.
Oui, mais on est sous le Second Empire.
Ouais.
Mais en l'état, c'est déjà un grand pas, encouragé d'ailleurs par Napoléon III. Nous sommes en pleine révolution industrielle, les ouvriers commencent à s'organiser et deviennent un interlocuteur, si vous voulez. Il faut donc faire baisser les tensions, il faut lâcher du lest. On est dans la deuxième partie du règne, la partie de l'Empire libéral. Après une première décennie de règne autoritaire, Napoléon III a choisi de faire des concessions aux libéraux. Vous avez bien compris que le terme libéral a un sens à l'époque très différent d'une autre.
Alors à l'époque, en 1864, la CGT n'existait pas, mais il existait des syndicats déjà ou pas?
Non, pas encore. Il va falloir attendre pour cela la loi Waldeck-Rousseau, 20 ans plus tard, et puis nettement plus tard, en 1946, le droit de grève sera inscrit dans le préambule de la Constitution, donc consacré. Aujourd'hui, la notion de grève fait partie de notre quotidien, vous voyez ce que je veux dire, mais enfin, ça c'est une autre histoire.